Dans un premier temps, on m'a demandé de présenter des bouquins de l'association Survie. Alors celui-ci parle de bien commun et bien public. Et il explicite combien il est urgent pour les pays d'Afrique, comme peut-être pour nous, de ce que l'eau, voire l'air, soient des biens communs, ils ne soient pas des biens publics, soient des biens publics plutôt, des biens communs, et pas des biens privés. Et donc il développe ça pour l'Afrique.
Par rapport à certains.
Ensuite, il y a ce livre-là, donc un petit livre, qui est un petit résumé donc, de la France-Afrique, où on parle, on présente, avec une page, on présente chacun des pays, où on présente chacune des personnes qui jouent un rôle dans la France-Afrique.
Au hasard, les
filles. Enfin, il y en a bien d'autres.
Oui,
hein, il y a Kouchner. Et donc, on introduit aussi le problème du génocide des Trucis, les paradis fiscaux, la dette. Donc, tout ça, c'est abordé, évidemment, très rapidement. Ça, c'est le dernier bouquin qui est paru, édité par l'association Survie. C'est des bouquins de survie, hein. Disons que Survie, c'est une association qui existe quand même depuis assez longtemps et qui édite, son premier travail, c'est d'éditer des documents. Et donc il y a des gens qui sont payés à Survie pour en écrire. Et celui-ci, donc le dernier, porte sur la société Areva et les problèmes de pollution qui existent et les problèmes aussi de ce que l'uranium ne nous permet pas du tout d'être indépendant. C'est une vision de l'esprit. On parle souvent de l'énergie. On serait indépendant parce qu'on aurait de l'uranium plutôt que du pétrole. En fait, c'est les politiques qui présentent les choses comme ça. Il n'y a aucune raison de penser de cette manière. Et c'est ce point-là, comme bien d'autres, qui sont abordés. Je vais parler du Cameroun. Alors, il y a une vidéo qui existe sur la guerre, donc, qui va être le thème de la conférence de ce soir. Hein, une vidéo qui s'appelle « Autopsie d'une indépendance ». Effectivement, l'indépendance, on verra qu'elle a échoué et qu'on est encore sous le régime aujourd'hui de cet échec. Donc, c'est une vidéo qui dure une heure. C'est écrit par et réalisé par. C'est plutôt un documentaire. Un documentaire enquête. Ensuite, il y a ce livre qui est paru en 2011 qui parle Cameroun, l'indépendance piégée. En fait, il parle surtout du parti qui a mené la lutte pour une véritable indépendance. Et donc, il raconte comment ce mouvement est né, comment il s'est transformé en parti et ensuite comment il a échoué. Ce livre-là aussi est paru en 2011. Il parle de la même chose. Vous voyez que Cameroun est écrit avec l'écriture allemande. C'est dû au fait qu'au départ, le pays était allemand. On verra pourquoi on garde cette écriture. Donc, il s'intitule « Une guerre cachée aux origines de la France-Afrique ». C'est un livre qui est très bien fait. Pourquoi il est très bien fait? Parce que les trois personnes qui l'ont fait, c'est deux journalistes d'enquête et un historien qui ont travaillé pendant 4 ans pour le réaliser. Et ils ont pu se servir des documents qui sont déclassifiés en France au bout de 50 ans. Et de ce fait, on a accès à des sources qu'on n'avait pas du tout avant. Il y a bien des gens qui disaient qu'il y a des choses qui s'étaient passées assez lamentables au Cameroun, mais on n'avait pas toujours toutes les preuves pour pouvoir en parler. Et donc là, il y a vraiment beaucoup, ça devient un document, et un document de base. Et c'est surtout de ce livre que je vais essayer de vous parler. Est-ce que j'arrive jusqu'au fond ? Merci. Donc on peut commencer, si vous voulez, en 1884. En 1884, vous avez donc le Cameroun qui est là, avec le port Douala et Yaoundé qui est un peu plus loin. Si vous voulez, ici, il y a le sud du Cameroun. Douala est là et Yaoundé est là. Yaoundé, c'est la capitale actuelle. Et Douala, c'est le grand port. Et la voie ferrée fait ce trajet. Et puis, il remonte vers le nord. Ici, on n'a que le sud du pays. Parce que les événements vont se produire essentiellement dans cette région qu'on appelle la Sanaga maritime, dans cette région qu'on appelle le Banuluké, cette région qu'on appelle le Mungo, et autour de Douala, autour de Yaoundé. Et quand c'est le sud, ce sera très souvent cette partie sud sans aborder cette zone-là. Donc il manque la moitié du Cameroun là, puisque c'est un pays qui devient de plus en plus mince et qui va jusqu'au lac Tchad. Mais en fait, les parties que j'ai montrées, c'est les parties les plus denses au point de vue population à cette époque-là et encore aujourd'hui. Quand les Allemands se sont installés au Cameroun, ils se servaient de Douala comme d'un comptoir qui permettait de l'exportation, café, banane, cacao, huile de palme, EVA bois. Et ils étaient en rivalité avec les Anglais, ils ont foutu les Anglais dehors. Il y a eu une guerre à Douala, il y a eu des quartiers bombardés déjà à cette époque. Et donc ils ont gardé la mainmise sur le pays. À partir de Douala, ils sont remontés vers le nord. Ils ont mis 13 ans pour s'imposer auprès des populations, soit en passant des accords avec des chefs locaux, soit en s'imposant par la force. Et voilà. Donc, ils sont installés tout seuls au Cameroun. Et c'est pour ça que le Cameroun est écrit comme ça. C'est le point de départ de l'histoire. D'autant que après, quand la première guerre 14-18 mondiale est arrivée, il y a eu une bagarre avec les Allemands qui a été menée par les Belges et les Français et les Anglais pour bouter dehors les Allemands hors du Cameroun. Donc ça a été fait. Et au moment du partage, à la fin de la guerre, ça a été partagé, le Cameroun, entre les Anglais et les Français. Et le mouvement de libération qui s'est installé dans le pays, c'était son premier mot d'ordre, la réunification des deux Cameroun. Il ne voulait pas cette façon de partager le gâteau, pour eux, ça n'avait aucun sens, et ils voulaient la réunification du Cameroun. Donc, dans un premier temps, c'est le premier mot d'ordre. Dans un deuxième temps, c'est indépendance, enfin, qui vient tout de suite après, hein, en même temps. Mais disons, ils avaient quand même un ordre comme ça. Et à la fin de la guerre aussi, de cette première guerre, se crée la Société des Nations. Alors, déjà, à ce moment-là, il commence à y avoir des pressions sur les Anglais et les Français. Les Anglais, ils ont encore leur empire colonial le plus important du monde. Les Français, c'est le deuxième empire colonial. Et les Américains, après la Première Guerre mondiale, font des pressions sur l'Angleterre et sur la France, pour que le problème de l'indépendance de tous ces pays qui sont sous leur coupe soit posé. Et donc c'est un peu cette ambiance-là où on commence à parler au niveau donc de la Société des Nations, qui était l'ancien ONU, de la suppression du travail forcé et de choses comme ça. Alors, les Français, ils sont là-dedans, ils disent oui, mais enfin, en gros, ils n'en font rien. À cette époque-là, si vous voulez, les Français, quand ils se sont installés, donc après les Allemands, ils avaient institué, comme les Allemands, les mêmes taxes et impôts. Donc c'était taxes, impôts par capitation, c'est-à-dire pour chacune des personnes vivantes, droit de place sur le marché, licence de commerce, patente de colportage, taxes d'état civil, taxes d'assistance médicale, taxes à la bicyclette, taxes aux chiens, permis de fête et tam-tam. Taxe sur le nombre d'épouses, etc. Et évidemment, celui qui payait pas... Il fallait bien financer tout ce qu'on était en train de soi-disant construire, nous, les Blancs. C'est-à-dire, on était en train de construire une voie ferrée, des routes et tout ça. Ben, il fallait financer tout ça. Et la façon de financer, c'était éventuellement de passer par là. Alors, il y avait en plus le travail forcé, qu'on n'a pas du tout abandonné, même si la Société des Nations a demandé ça. Et puis, il y avait aussi un droit de réquisition. Donc, on pouvait réquisitionner des cabris, de ceci et de cela, exactement comme on le désirait. Et évidemment, ça s'étendait aussi à des réquisitions de terres. Des tas de paysans étaient expropriés. Bon. On peut lire toutes sortes de textes à cette époque-là, juste après, entre les deux guerres, des textes du genre « L'indigène est atteint d'une paresse congénitale et le travail obligatoire disparaîtra dès que le goût au travail et l'accès à la dignité par le travail seront observés ». Ça, c'est un discours qui est fait auprès de la Société des Nations pour que la France explique qu'il abandonne pas tout de suite le travail forcé, que c'est pas possible, quoi, en quelque sorte. Alors, il y a un chiffre quand même qui revient assez souvent, c'est à peu le même pourcentage pour la voie ferrée qui est en construction, qui va dans un premier temps de Douala à Yaoundé, et pour la voie ferrée aussi qui se construit au Gabon, c'est le chiffre de 60% de gens qui meurent dans ce travail forcé. Alors, à la sortie de la guerre, il se passe un truc assez extraordinaire, c'est que De Gaulle va, si vous voulez, ici vous avez les pays d'Afrique occidentale et là les pays d'Afrique équatoriale. Hein, Afrique équatoriale, c'est Cameroun, Gabon, Congo, le Congo-Brazzaville, Centrafrique et Tchad. Et donc, à la sortie de la guerre, il y a toute cette partie, presque tous les pays ici de l'Afrique occidentale, qui sont pétinistes, enfin pendant la guerre plutôt. Ils sont pétinistes, tandis que les autres, mais alors là, je suis en train de me mélanger. À la rentrée de la guerre, c'est comme ça. Ils sont pétinistes, tandis que tous les autres d'Afrique équatoriale vont se rallier à De Gaulle qui débarque à Douala, justement. Et à partir de là, on va pouvoir réquisitionner des hommes de troupes qui vont servir à les troupes venant d'Afrique équatoriale. Pour 50% viendront donc de cette région-là. Voilà. Donc ça, c'est pas à la sortie de la guerre, c'est à la rentrée de la Deuxième Guerre mondiale. À la sortie de la guerre, la SDN est remplacée par l'ONU. Et cette fois-ci, c'est plus seulement les Américains qui font pression sur les pays qui ont encore des colonies, comme la France et l'Angleterre. C'est les Américains et les Soviétiques. Tous les deux s'entendent pour dire vous, quand même, vous exagérez, etc. Avec vos histoires de colonies, les droits de l'homme ne sont pas... il y a édité la Déclaration des droits de l'homme universelle. Et ça joue un grand rôle parce que les Camerounais qui vont être les premiers à être syndiqués et tout ça vont avoir connaissance de cette Déclaration des droits de l'homme. Et vont se demander pourquoi eux, au Cameroun, n'ont pas droit aux droits de l'homme, alors qu'ils viennent donner un coup de main pour libérer la France, pourquoi eux, ne sont pas libres. Pour eux, ce sera une évidence qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. Évidemment, au début, ça atteint des leaders syndicalistes. Et donc, en 1945, il commence à y avoir des manifestations et des grèves. C'est tout à fait inattendu. Ça se passe à Douala, notamment. Et les colons qui, eux, exploitent la main-d'œuvre sont très choqués de ce qu'on puisse se révolter de cette manière. Et donc, ils demandent aux autorités françaises de mater ce genre de rébellion. L'administration refuse, et du coup, ils s'attaquent à un dépôt d'armes, ils prennent les armes, et ils se mettent à faire la chasse aux nègres. Les colons à Douala, il y en a 80 personnes sont abattues, mais en fait c'est un mouvement qui parcourt tout le Cameroun et il y a une chasse à l'homme qui est faite par les colons un peu partout. On n'a aucun chiffre à part Douala, on n'a aucun chiffre au sujet de ça. En fait, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'administration française n'a fait absolument aucune poursuite suite à ce genre d'événement. Alors, je ne sais pas si je commence. Je vais pas très vite là. Hein. Je vais essayer d'accélérer. Non. Je vais faire un petit saut. Entre parenthèses, à 47, il y a Madagascar, le massacre. Bon, il y a des chiffres qui disent 89 000 personnes. Qui en ont été victimes par l'armée française. En 1947 aussi, c'est la nomination de Mgr Lefebvre, il était évêque, il est envoyé par le Vatican pour s'occuper de toute l'Afrique francophone et de former des évêques, etc. Et ça explique sans doute, puisque certains d'entre vous savaient que Mgr Lefebvre, c'est plutôt un catholique d'extrême droite, en tout cas très intégriste. Et évidemment, il va plutôt s'occuper de former d'une certaine manière les évêques, de telle sorte que ces évêques vont prendre parti assez souvent contre la rébellion. Enfin, assez souvent, presque toujours. À ce moment-là, on est presque en 48, et en 48, il y a la création du mouvement dont on va parler le plus, c'est l'UPC. L'Union des Populations du Cameroun. Alors il faut déjà remarquer que le nom indique que c'est toutes les ethnies du Cameroun qui sont rassemblées. C'est-à-dire, souvent, à la télé ou dans les médias habituels, on vous présente les événements qui peuvent se passer en Afrique comme des histoires de guerre ethnique. En fait, il n'y a rien de spécialement ethnique en général. Hein. Quand il y a des troubles, on vous dit toujours que c'est ethnique, même quand ce n'est pas ethnique, et en général, ça ne l'est pas. Et quand ça l'est, c'est très souvent qu'on a provoqué, nous, ou d'autres Européens, Américains, on a provoqué cette situation-là. Alors l'UPC, au départ, se déclare comme un mouvement fondé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec le droit des peuples à se libérer, il réfute Jules Ferry, il réclame l'indépendance, il réfute l'idée de race supérieure, il veut participer au combat contre le fascisme, le racisme et l'oppression pour le triomphe de la liberté, et il se charge d'éditer des documents officiels vers la presse internationale, l'ONU notamment, le Cameroun et les autorités françaises. Alors voilà ce mouvement tel qu'il se présente au départ, ce n'est même pas un parti. Et pendant 7 ans, les 7 premières années, ce ne sera pas du tout un mouvement de lutte. Donc il y a des leaders qui vont se distinguer. Disons, on va en citer 4. Il y aura Ruben Umniobe, Wandie, Moumié et Kingé. Alors, Ruben fait partie d'une ethnie, c'est les Bassa. Moumié fait partie d'une autre ethnie, c'est les Bamoun. Et les deux autres font partie d'une autre ethnie, c'est les Bamileke. Donc en tout cas, ces quatre-là, qui vont parcourir toute l'histoire de la lutte contre la colonisation, ces quatre-là s'entendent bien, et il n'y a pas de guerre ethnique tellement entre eux. Et au départ, le mot d'ordre, c'est donc réunification des deux Cameroun et l'indépendance. Ruben, alors je vais l'appeler plutôt que Ruben Niobe, je vais l'appeler Ruben. Et en 53, il va à l'ONU et il explique que c'est ses demandes, indépendance et réunification. À ce même moment, les anglophones de la partie anglophone du Cameroun demandent, eux, d'être rattachés au Nigeria qui est à l'est. À l'ouest plutôt. Et donc on arrive en 54. 54, c'est la guerre d'Indochine qui est perdue. Alors ce genre d'événement, ça a d'autant plus d'importance pour les Camerounais qu'ils ont envoyé eux, des troupes. Ils font partie des 60 000 Africains d'Afrique noire qui ont été en Indochine pour lutter pour nos intérêts. Alors ceux qui sont vivants et qui reviennent, évidemment, ils parlent de ce qu'il y a des gens qui font des guerres de libération, même si eux étaient du mauvais côté. Certains de ces gens de troupes vont être gardés comme militaires camerounais encadrés par les Français à cette époque-là. Et d'autres vont rentrer tout simplement dans leur village, et certains d'entre eux vont adhérer complètement à cette histoire de guerre de libération. En même temps que c'est la fin des guerres d'Indochine, c'est la guerre d'Algérie qui commence. Et c'est pour vous dire un petit peu l'ambiance. Et à ce moment-là, l'administrateur français du Cameroun, il édite une brochure, qui est la brochure faite par un dénommé Lacherroy, et qui parle de la guerre révolutionnaire. Alors la guerre révolutionnaire, on va en parler un peu par la suite plus en détail. Mais enfin, c'est une façon pour les troupes françaises de faire une contre-guérilla contre la guérilla. Ils appellent ça la guerre révolutionnaire. En fait, c'est la guerre contre les révolutionnaires, si on veut être plus compréhensible. Alors, il diffuse cette brochure dans toute l'administration, alors que... Bon, il n'y a pas de guérilla pour le moment. Donc c'est une initiative assez incroyable que l'administrateur fasse ça. Dans le même temps, les évêques diffusent de leur côté des textes contre le mouvement de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun. Des poursuites sont engagées contre les leaders sous des prétextes divers. Les meetings de ce mouvement sont dispersés par la France. Et puis aussi, il y a déjà des provocations, bagarres qui sont créées dans ces meetings et des infiltrations très denses qui sont mises en place. Tout ça fait qu'en 1955, il y a des émeutes qui éclatent de tous les côtés. C'est suivi par des répressions qui font des dizaines de morts. Les maisons de tous les leaders un peu conséquents sont brûlées ou pillées. 200 militants sont arrêtés, mis en prison, battus, torturés. La délation est devenue obligatoire déjà à ce moment-là, c'est-à-dire on colle des affiches partout dans les villes et dans le moindre village où on dit qu'il faut absolument dénoncer les gens de ce mouvement. Et évidemment, le mouvement est interdit. Et même les délégués ONU qui sont en visite pour voir si tout se passe bien refusent de recevoir ces gens qui sont illégaux. Et donc tout va bien pour la France. Pour trois des quatre que je vous avais cités, c'est-à-dire pour Moumié, Wandié et Kingé, ils sont obligés d'aller se réfugier dans la partie anglophone qui n'est pas touchée comme la partie francophone par ces débuts de rébellion. Et Voilà. Il reste Ruben, qui lui, toujours, refuse de se radicaliser plus avant et cherche des alliances à l'intérieur du pays avec d'autres partis. Et notamment, puisqu'on l'a mis dans la situation où il ne peut pas se présenter, ou bien à des élections, ou bien quand il y a des élections, il y a un bourrage d'urnes, notamment dans le nord du pays, qui est fait par les Français d'ailleurs. C'est-à-dire, quand moi je vous raconte des trucs, c'est souvent parce que les gens ont témoigné, bien sûr, mais souvent c'est écrit dans des rapports qui étaient tenus secrets, mais qui sont devenus comme ça. Donc c'est pas des inventions. Quand je suis en train de vous dire qu'il y a du bourrage d'urnes, c'est pas une hypothèse. C'est des Français qui ont écrit des rapports comme quoi ils ont bien bourré les urnes. Et que, si vous voulez, dans le nord du pays, qui n'était pas trop concerné par tout ça, les gens ne se déplaçaient pas tellement pour voter. Et du coup, ils en avaient rien à foutre, en gros, parce que de toute façon, visiblement, ceux qui étaient élus, c'était plutôt des gens de leur ethnie. Et donc, ces gens-là, ils venaient les voir et tout avait l'air de bien se passer. Ils ne voyaient pas à quoi servait cette histoire d'élection. Et donc, ils ne se déplaçaient pas trop. Alors, bourrer les urnes, ça voulait dire tous les bulletins qui n'étaient pas là. Et alors, ils racontent, les Français, qu'ils bourraient tellement les urnes qu'il y avait beaucoup plus de bulletins que de votants. Et c'était à la fin des élections qu'ils étaient obligés d'enlever des histoires comme ça. Quand j'y étais au Cameroun, j'ai rencontré une personne. Ça se passe, ce que je vais vous raconter, donc 15 ans après. Cette personne, elle a... Ça se passe en 65. Elle est allée faire les premières élections, en fait, présidentielles qui ont eu lieu. Et puis, à la fin de la journée, les militaires sont venus et ont voulu emporter les urnes, sans dépouiller. Et donc les villageois sont révoltés, ils ont cassé les urnes et ils ont dispersé les bulletins. Donc l'armée est partie. Elle est revenue 15 jours après au village. Dans le village de cet homme que j'ai bien connu, ils en ont pris 5, dont lui. Et ils les ont mis en prison. Pendant un an, les villageois n'ont pas su où ils étaient. Et donc, au bout d'un an, il y a le procès qui est affiché, comme quoi il a lieu à Yaoundé. Seulement, il n'y a déjà plus que deux qui peuvent venir au procès, les trois autres sont morts. Et les deux qui restent ont été condamnés pour subversion. Et ils ont été condamnés à un an de plus, à 2 ans, quoi, donc un an de plus. Et il y en a un quatrième qui est mort. Donc lui était le seul qui était revenu vivant. C'est un peu pour vous dire, quand on parle de prison là-bas, c'est pas de la rigolade, c'est très très dur. Donc on est arrivé à un moment donné où il n'y a rien qui marche au point de vue élection, etc., pour les gens qui cherchent à se faire entendre au sujet de l'indépendance, etc. Et donc, il décide de rentrer dans la lutte armée. Mais une lutte quand même assez douce dans un premier temps. C'est uniquement des attaques de train pour que la voie ferrée est coupée, ou bien les routes sont coupées. Bon, il y a quand même des missions qui sont attaquées, il y a quand même des chefferies qui sont attaquées. Mais c'est pas très très violent au point de vue des personnes, ou en tout cas les blancs sont épargnés. Par contre, les forces de répression, c'est terrible. Là, c'est village rasé, torture, des milliers de morts. Alors, pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui se passe à Paris à ce moment-là, ou en France, on n'en parle pas. Il y a Mesmer, par exemple, qui vient à Paris à cette époque-là, et il dit. Il ne faut pas en faire un fromage de cette histoire, il n'y a aucun blanc qui est tué. Et les journaux ne parlent pas qu'il y a des gens, qu'il y a des milliers de morts. Ceux qui voudraient en parler sont saisis. Et évidemment, au Cameroun, c'est la même chose. Un seul journal arrive à passer. À ce moment-là, ça a été témoignage chrétien, qui a réussi à annoncer qu'il y avait eu 1000 morts. Enfin, il a minimisé très probablement. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a deux ethnies, les Bassa et les Bamileke, qui créent leur branche armée. On est en 57.
J'en ai.
C'est fini ?
Non ? On peut aller jusqu'à l'indépendance.
J'ai encore un peu de temps. Alors la guerre révolutionnaire va commencer à battre son plein. C'est-à-dire à ce moment-là, si vous voulez, dans l'ethnie Bassa, qui était l'ethnie la plus active, les militaires exercent le pouvoir civil. Pour pouvoir exercer le pouvoir civil, ils rassemblent toute la population dans des camps. Ils enferment les gens, ils mettent des miradors. Il y en a même qui disent « j'ai connu ça quand j'étais prisonnier en Allemagne », des militaires. Et donc ça, c'est la zone permise à l'intérieur des camps. Et à l'extérieur, c'est la zone interdite, sauf quand il y a des permissions pour aller dans les champs qui sont au voisinage. C'est-à-dire que les paysans ont dû abandonner toutes leurs terres. Et moi, j'ai connu des gens... ça se passe ici, je suis en train de rencontrer un truc de 57, et j'ai connu des gens en 70 qui étaient encore obligés de rester au bord des pistes. Il n'y avait plus les camps, mais ils étaient obligés de rester au bord des pistes. Ils avaient interdiction toujours de revenir dans leur village qui avait été rasé aussi sec, hein, de même que toutes les cultures sont détruites. De façon à ce que ce qui est en dehors soit considéré comme étant le maquis, et ce qui est le maquis, on peut tirer à vue. Il faut dire que dans la forêt, tirer à vue, c'est souvent pas très loin, hein, sauf si on est sur une piste, sur un chemin qui est par morceaux très rectiligne, mais sinon on voit rien à 5 mètres hein, dans la forêt. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui peuvent se cacher et rester assez longtemps. Donc il y a une zone interdite où les vallages sont rasés et les cultures détruites. Et voilà, on appelle ça une zone de pacification. Ça s'appelait la ZOPAC, zone pacification. Mesmer, qui était celui qui a été responsable de l'armée à ce moment-là, ce qu'il en a dit après, quand on l'a interviewé, il a dit la chose suivante, on le retrouve dans la cassette, là, où il s'exprime. Il dit, puisqu'ils n'acceptent pas la règle démocratique, je les élimine. On peut se demander quelle règle démocratique il y avait avec le bourrage d'urne organisé par les Français quand il y avait une élection. Aucune personne de... au moment où l'UPC, le mouvement qui voulait l'indépendance, était non violent, eux-mêmes au départ se proclamaient Gandhi, aucune de ces personnes n'a jamais pu être élue, aucun de ses représentants. En France, en 1958, c'est toujours la censure totale, avec en plus, puisque l'information ne passe pas, il y a même le Parti communiste qui, au début, soutenait un petit peu ce qui se passait. Quand le mouvement s'est vraiment lancé dans la guérilla, le Parti communiste n'a même plus voulu soutenir, disons qu'avec la guerre d'Algérie, ils estimaient qu'ils en avaient assez. Comme l'ONU n'était pas très favorable à soutenir ces gens-là non plus, finalement, on laisse tomber. À ce moment-là arrive De Gaulle, enfin c'est le retour de De Gaulle en 58, avec son ami Focard. Et il fait le même coup que ce que vous connaissez pour l'Algérie, c'est-à-dire, il dit, mais on va proposer l'indépendance du Cameroun. Il faut organiser ça. Donc, on organise tout. On organise, par exemple, un vrai UPC, un vrai mouvement de libération pour l'indépendance, et pour dire un faux parti, si vous voulez, qui a le même nom que le mouvement de libération. On fait ça dans le moindre détail. À l'ONU, le Cameroun était représenté jusqu'alors par un Français et un Camerounais, mais là, en 1958, c'est même plus un Camerounais qui peut se pointer pour représenter le Cameroun, c'est deux Français qui se pointent. Et ils se pointent pour dire... on propose l'indépendance, c'est formidable, mais on exige l'indépendance sans élection. Et bon, l'ONU accepte. Hein. C'est voté. Dans le même temps, les soutiens internationaux, il n'y a pas que le PCF qui ne soutient plus rien en France, mais les soutiens internationaux se délitent complètement. Et Moumié, Kingé et Wandié, ceux qui s'étaient réfugiés dans la partie anglophone, sont obligés de se sauver. Ils sont plus couverts, en quelque sorte, par les anglophones. On leur demande de déguerpir. Et ils partent soit au Ghana, soit en Guinée. Donc ça ne va pas très bien pour le mouvement de libération. D'autant que le leader qui menait un peu tout, et qui n'était pas du tout un chef de guerre, qui était un type qui se baladait en forêt avec une grande malle pleine de documents, une machine à écrire, parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était beaucoup d'éditer des rapports pour l'ONU, des télégrammes à envoyer à l'ONU, des choses comme ça. Eh bien, ce monsieur qui avait été très pacifique au début, et puis sous la pression à la fois des trois autres et des événements, qui s'était lancé dans la guerre, il est abattu en forêt et coulé, comme Ben Laden, coulé dans le béton. Donc c'est une vieille pratique. Et à ce moment-là, un dénommé Aïdjo, c'est celui qui va devenir président du Cameroun pour la vraie indépendance, celui-là est élu premier ministre à l'Assemblée représentative du Cameroun. Et il y a amnistie aussi pour ceux qui vont se rallier à Aïdjo, ce futur président. Et il y a libération de quelques prisonniers, ceux qui ne sont pas condamnés à des lourdes peines. Et notamment ceux qui ont encore réussi à survivre dans les prisons à cette époque-là. Si vous allez voir sur Wikipédia, vous verrez que c'est, on les appelle des camps de concentration, hein, carrément. On ne les appelle pas des prisons. Alors vous allez me dire, devant tout ça, le mouvement de libération qui se délite officiellement, l'indépendance qui est demandée par les Français, qui est demandée par Aïdjo, qui est allié aux Français, enfin qui est poussé par les Français, vous allez dire, tout va bien se passer. Ben non, c'est pas du tout. L'indépendance sans les indépendantistes, ça ne convient pas du tout aux Camerounais, mais alors vraiment pas du tout. Ce qui fait que aussitôt ces multiplications de grèves, mais vraiment partout du nord au sud, dans le public, dans le privé, à la ville, à la campagne, et l'armée de libération se fait beaucoup plus radicale qu'avant, c'est-à-dire qu'on n'épargne plus les Blancs. Et on s'éloigne des théories de Ruben qui étaient... Le leader, le grand leader, assez pacifiste, il n'est plus là, il est mort. Et ceux qui vont le remplacer, ça va être notamment un chef de guerre qui s'appelle Singap, mais bon, qui est connu comme ça parce qu'il a été s'est avéré très fort au point de vue militaire pour lutter contre les Français. Il faut dire aussi que les forces camerounaises qui luttent contre les Français n'ont absolument presque aucun moyen d'armement. Hein. Ils essayent bien de faire passer des armes par le Nigeria, Mais il y a très peu de gens, surtout, qui veulent le randonner. Hein. Et apparemment, la seule chose que, dont j'ai entendu parler, c'est des pistolets tchèques qu'ils ont réussi à faire passer. Pour le reste, c'est des fusils de chasse, des armes qui se fabriquent eux-mêmes, des armes de traite qui datent de l'esclavage, et puis surtout des attaques de dépôts, de dépôts de gendarmerie, des dépôts de prison, de prison, des dépôts de police, et des garnisons qui ont attaqué pour se procurer des armes, notamment. Mais en fait, ça fait ça fait très peu d'armes. Et la guérilla, là, maintenant, qui est en train de se radicaliser complètement, de part et d'autre, c'est-à-dire que l'aviation, maintenant, française, va intervenir plein de pots, avec pas grand-chose, 2 hélicoptères et 13 avions. Mais, si vous voulez, par exemple, les avions, ils interviennent par deux, et ils peuvent intervenir sur un même endroit pendant 7 heures d'affilée, en se reliant jusqu'à ce que tout soit rasé. Ils utilisent aussi des munitions qui mettent feu pas à la forêt, mais à la savane. Vous savez, moi je me suis promené dans la savane, il y a en période de saison sèche, et des fois il y a vraiment l'herbe qui a 3-4 mètres. Hein. Donc on n'y voit pas bien du tout. On ne voit pas le feu arriver. Et quand il arrive, il est trop tard. Donc ça peut être vraiment terrible de mettre le feu comme ça, partout, avec des cartouches exprès, des cartouches incendiaires. Et également aussi sur les cases, la plupart des cases à cette époque n'ont pas de toit de tôle. Donc si vous mettez une cartouche incendiaire là-dedans, et puis que ça pète et que ça s'effondre sur les gens peuvent être gravement brûlés. De toute façon, s'ils se sortent de la case, c'est à ce moment-là qu'on les mitraille avec l'avion. On les attend. Alors tout se durcit de tous les côtés. Aïdjo vote des lois d'exception et se donne les pleins pouvoirs. Et dans toute cette période-là, les renforts arrivent sans arrêt. Et pour l'essentiel, c'est évidemment des Français qui encadrent en un peu plus grand nombre, mais c'est surtout des Congolais, des Tchadiens et des Gabonais, je crois. Enfin, il y en a un troisième, je suis plus sûr des Gabonais. Et arrive le jour de l'indépendance. C'est dans ce contexte que l'indépendance est déclarée. J'avais rencontré un journaliste qui m'avait dit « Le jour de l'indépendance, l'aéroport, quand on est descendu de l'avion, c'était une mare de sang. » Et de fait, dans ce livre, j'ai retrouvé l'histoire. C'est-à-dire, l'aéroport a été attaqué et même la tour de contrôle a été prise 2 jours avant l'indépendance, le 30 décembre 59. Donc, pour vous dire que les Camerounais ont mis le paquet pour arriver à faire ça dans un objectif aussi stratégique. Enfin, bon, ils ne l'ont pas tenu longtemps. Hein. Ils se sont fait drôlement descendre. Il y a d'ailleurs deux Français qui sont morts à cette occasion-là. Le 1er janvier, par exemple, c'était le jour de la fête de l'indépendance. Vous avez toujours vu aux actualités, les vieux ils s'en souviennent, on voit les nègres en train de danser. On vous présente vraiment les gens qui sont contents de l'indépendance. Ça se passe. C'est des films qui sont tournés à Yaoundé. En fait, entre Doulala et Yaoundé, le jour de l'indépendance, il y a eu 39 personnes qui ont été tuées. Parce que, évidemment, les gens de l'UPC, du mouvement de libération, ont cherché à montrer qu'ils étaient là. Et les troupes françaises ont essayé de tout faire pour empêcher qu'ils soient visibles. Mais enfin, bon, c'était dans les villes que ça pouvait se passer aussi. Hein. Pour vous dire, à l'occasion de... Alors l'indépendance, c'est le 1er janvier 60. Le 21 février, organiser un référendum sur la Constitution, qui a été écrite par les Français, en fait, qui ont écrit cette Constitution, et les annexes de cette Constitution. Enfin, il y a eu un juriste qui est venu pour l'écrire, pour vérifier que ça allait à peu près. Et puis, il y a les militaires qui ont écrit, les militaires français qui ont écrit les annexes qui étaient relatives à la défense. Eh bien, il y a eu un référendum pour savoir si les Camerounais voulaient cette constitution. Alors, je vous donne les résultats. 90% à Yaoundé, 95% à Douala, pour dire oui à la Constitution ou non à la Constitution. Vous dites quoi, ces chiffres?
Non. Le bourrage, c'était oui.
C'est extraordinaire, parce que ça a été non. Ça a été les non. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu bourrer les urnes. Il y a eu une telle organisation par les rebelles, si vous voulez, qu'ils n'ont pas pu. Et donc, dans Yaoundé et Douala, qui sont quand même très peuplés à cette époque-là, eh bien, c'est le non qui l'emporte avec des chiffres incroyables. Donc, les gens, ils disent non, vraiment, c'est non. Mais le résultat global, c'est oui. À 60%, ça a été oui, parce que dans le Nord, de toute façon, c'est bourré, et puis un peu partout, c'est bourré. Et oui, puis même dans des endroits, ils n'ont même pas le droit de voter. Oui. Il y a l'état d'urgence qui existe dans 11 départements. Et évidemment, dans ces 11 départements-là, qui sont les plus agités, le vote n'est pas possible. Pourtant, c'est là qu'il y a le plus d'opposants. Alors, les conseillers, à partir de l'indépendance, ce sont eux, les conseillers français, qui dirigent le pays. Et qui dirige l'armée aussi. À ce moment-là arrive un général qui s'appelle le général Briand, qui est recommandé par Mesmer et Guillaume. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est Guillaume. C'est un type complètement extraordinaire, un ingénieur polytechnique qui est devenu chef de ELF, chef du CEA, qui a été ministre, etc. Il a une carrière incroyable. Et alors Guillaume, lui, il se rendait compte que quand même, il fallait garder ces pays. Lui, c'était pour des raisons de minerais, que c'était une évidence. Mesmer et De Gaulle, eux, ils voulaient aussi garder des pays comme ça, parce que pour eux, c'était des viviers militaires. Ils s'en étaient servis pour la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se disaient, mais ils avaient même discuté avec les Américains pour dire « laissez-nous faire, parce que de toute façon, on ne veut pas faire tout ce que vous demandez à l'ONU tout de suite, mais de toute façon, vous pourriez aussi en profiter, vous les Américains. S'il y avait un jour la bombe atomique qui vous tombe sur la gueule, peut-être que vous aurez intérêt à avoir des troupes. Et si vous avez des bases militaires françaises qui sont là prêtes à vous accueillir. » Déjà au niveau de l'ONU, à cette époque-là, c'était des choses dont on parlait. Alors ce général Briand, il est recommandé par Mesmer Guillaume. Il y a toujours De Gaulle qui est là. Et il est recommandé parce qu'il a un goût très prononcé pour le travail de pacification. C'est un ancien d'Indochine, d'Algérie, etc. Effectivement, il est très compétent. Et effectivement, il va faire un massacre. Ça commence par Douala. Bombardement et cartouches incendiaires. Il y a un quartier qui s'appelle le quartier Congo qui a été mis à feu. Et on indique... Bon, alors là, je vais faire quand même une petite réserve, c'est-à-dire que c'est pas complètement certain. Enfin, il y a des gens qui ont témoigné pour dire qu'on a retrouvé 600 cadavres dans les puits, dans les latrines de ce quartier qui a été bombardé et mis à feu, parce que les gens sont protégés du feu, et en fait, ils se sont tous jetés dedans en trop grand nombre, ils se sont noyés, en fait. Donc, ce aurait été 600 cadavres qu'on aurait retirés. En tout cas, le Briand dit, lui, que l'année de l'indépendance, il reconnaît 20 000 morts. au moins il reconnaît les morts que lui a produits, même si dans la forêt c'est très difficile à comptabiliser, parce que vous savez, quand vous êtes dans la forêt, si vous tirez sur quelqu'un qui est dans la brousse, qui est tué à 20 mètres, par exemple, vous n'allez pas forcément voir qu'il y a quelqu'un qui a été tué à 20 mètres dans une rafale de mitrailleuse. Et en plus, avec les fourmis, par exemple, ne serait-ce que les fourmis magnans, ils vous dépècent un cadavre en 48 heures. Hein. Il ne reste vraiment plus que les os. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas l'odeur du cadavre toujours qui va pouvoir être décelable. Et ensuite, les comptabilités. Alors, quand Briand dit 20 000, moi je crois que 20 000 en 60, c'est un chiffre minimum. À ce moment-là, il y a une formation accélérée de cadres militaires, avec des stages à la torture dans les postes de police de Yaoundé, notamment, et formation accélérée de miliciens, puisque quand on fait la guerre révolutionnaire, là, quand on institue ces camps et tout ça, en fait, on forme des miliciens. On ne peut pas, en tant que militaire, gérer toute cette population qui est dans les camps. Et donc, il faut former des gens en plus, et qui ne vont pas être militaires, mais qui vont jouer à peu près le même rôle, mais en étant un peu plus proche de la population. On est en 60, et en 60, c'est parmi les quatre que je vous ai cités, il y en a un deuxième qui meurt. Il est empoisonné à Genève. C'est-à-dire que ces gens qui sont dehors, ils essayent d'aider ceux qui sont à l'intérieur, qui luttent à l'intérieur. Évidemment, en essayant de faire passer des armes, mais ça, ils y réussissent pas trop. Mais ce qu'ils réussissent un peu mieux, c'est de populariser la lutte, de rentrer dans les mouvements non-alignés qui se constituent à cette époque, notamment le Rassemblement démocratique africain qui réunit au départ avec Oufouette Bani, qui a des positions très indépendantistes et qui est très révolutionnaire. Il arrive à... Oui, ces gens-là, à l'extérieur, jouent quand même un grand rôle indispensable. Mais donc, Yamoumier, il y en a un d'entre eux qui est empoisonné à Genève. Il y en a un troisième qui, à ce moment-là, rejoint le maquis pour restructurer la guérilla. En effet, à ce moment-là, si vous voulez, c'est dans la guérilla, c'est l'ambiance de chaos. C'est-à-dire les choses sont en train de se déliter. Les vrais révolutionnaires, puisque je suis obligé de parler des vrais, puisqu'il y a les autres qui disent qu'ils sont révolutionnaires aussi, qui sont en perte de vitesse. Bon, et cette perte de vitesse, disons que de 60 à 62, dans la région Bamileke, ça va être la guerre totale, si tu veux. Ça va être bien quand même tenu par les révolutionnaires. Mais peu à peu, les pertes vont être de plus en plus lourdes. Cette façon de rassembler la population dans des camps, ce ne sera plus des camps, on va carrément dire, ça va être carrément des villes qui vont être rassemblées, c'est-à-dire dans le pays Bamileke, qui a été le plus soumis à tous ces événements-là, c'est un habitat extrêmement dispersé. Vraiment rassembler toute la population, c'est déstructurer toute la campagne. Et tant qu'à faire, il ne s'agira même pas de rassembler en faisant des villages, etc. Ils vont faire véritablement des villes, et ils vont rassembler presque les deux tiers de la population avec 24 camps, ce qu'ils appellent encore camps, mais c'est pratiquement des villes. Alors, j'ai noté, j'en arrive à la fin. Disons que de 63 à 68, le pouvoir camerounais est toujours représenté par Aïdjo. Il est copain avec un dénommé blanc qui est un Français. Il est blanc, mais c'est son nom aussi. Et tous les deux dirigent le pays. Mais ils dirigent en termes de copains. Mais ce blanc, à l'insu de Aïdjo, fait sans arrêt passer des documents à un conseiller qui se trouve là aussi dans la présidence, dans les mêmes bâtiments. Il photocopie la nuit, etc. Et finalement, tout ça arrive sans arrêt, en permanence, à l'ambassade. Et évidemment, l'ambassade, ça lui permet d'avoir connaissance de choses que Aïdjo ignore que les Français connaissent. Parce qu'il fait vraiment confiance à ce blanc. Donc les Français piègent Aïdjo au plus haut niveau. Pendant ce temps-là, si vous voulez, Aïdjo, il gouverne pas tout seul, il a quatre copains en quelque sorte. Il y a un fonctionnaire français malien. Voilà, c'est un malien qui est fonctionnaire français, qui est un de ses copains pour diriger le pays. Il y a le ministre de l'administration territoriale et des finances et du plan. Il y a un dénommé Camé, qui est le chargé de la défense, qui est un fasciste déclaré. Il se proclame élève de Goebbels, etc. C'est lui, effectivement, qui sait ce qu'il fait quand il met les gens dans des camps et qui massacre ceux qui n'ont pas voulu y rentrer. Et puis il y a le premier secrétaire du Parti unique, c'est-à-dire que pendant toute cette période, théoriquement il y a plusieurs partis, avec au début un parti qui a le même nom que le parti d'opposition, mais aussi d'autres partis. Et en fait, peu à peu, il n'y a plus que ce qu'on peut appeler le parti unique. C'est-à-dire il y a toujours le parti qui est interdit, qui serait majoritaire s'il n'était pas interdit. Et les autres partis qui perdent de pied aussi, et on tourne au régime parti au régime du parti unique. Et en même temps que tout ça s'instaure, parti unique, la débâcle du maquis. Et voilà, en même temps s'instaure peu à peu une paranoïa de Aïdjo. Bon, il l'a eu très vite, cette paranoïa. Mais disons que elle bat son plein, c'est-à-dire que sans arrêt, en permanence, des députés, des ministres sont accusés de malversation, etc., et sont envoyés en prison ou bien disparaissent. Il y a aussi des créations artificielles d'incidents qui sont faits des fois qui sont créés par les militaires ou bien par des chefferies, des administratifs dans des régions reculées, parce qu'ils sont aperçus que en créant des incidents de façon artificielle, ils arrivaient à avoir un peu plus de personnel ou bien ils arrivaient à avoir une promotion. Tout tourne en eau de boudin, si vous voulez, dans le pays. Il y a aussi, au niveau du pouvoir, et un peu dans tout le pays, comme c'est dans la région Bamileke qui reste encore des gros maquis qui arrivent un peu à s'imposer, il y a la phobie du Bamileke qui s'instaure partout. Donc il y a le maire, par exemple, à Yaoundé, qui a cette phobie du Bamileke et qui organise des expulsions sans arrêt, qui fait intervenir la police pour faire des rafles, etc. Et il y a des violences ethniques qui s'instaurent un peu contre cette ethnie-là dans tout le pays. Il y a même une région, dans la région anglophone, où l'administration se met à distribuer des armes aux non-Bamilékés pour foutre sur la gueule aux Bamilékés. Alors évidemment, ça se termine par un massacre considérable. Et je vais en terminer avec la date de 71. C'est presque la date de mon départ du Cameroun. Wandié est fusillé. J'ai assisté en partie à son procès, c'est-à-dire quand je n'avais pas cours à l'université. Et moi, ce que j'ai vu, c'était un homme très digne qui a refusé pendant tout le procès de prendre la parole parce qu'il n'avait pas eu le droit d'avoir l'avocat qu'il avait choisi. Il avait choisi un avocat français qui n'avait pas eu le droit de venir. Il n'a pas eu le droit d'atterrir au Cameroun. Et à la fin du procès, évidemment, il a été fusillé avec deux autres sur la place publique. Et à la fin, si vous voulez, effectivement, la guérilla est éradiquée. Mais ce qui est aussi éradiqué, si vous voulez, c'est le peu de gens qui pouvaient rester, qui étaient progressistes, etc., qui voulaient vraiment une réelle démocratie, etc. Bien, il n'y a plus rien qui peut fonctionner parce que le pouvoir lui-même est dans un état de décomposition absolument incroyable. Il n'y a plus que de la corruption, de la délation et de l'arbitraire. Voilà, je vous remercie.
Merci à vous.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut peut-être faire la coupure barre, mais on reprendra assez vite quand même.